been a place like that.
Vous êtes bien sur Dégenrée, une émission féministe les 2e et 4e mercredis du mois sur Kaleidoscope 87 FM.
97 FM.
Merci. Bonsoir, donc ce soir nous sommes avec Marina, Amélia et Inga à la technique.
Bonsoir.
Et ce soir donc le thème de notre émission c'est donc les femmes migrantes et le travail du sexe. Donc si vous souhaitez réécouter cette émission ou la conseiller à d'autres personnes, eh ben, il ne faut pas hésiter puisqu'elle est rediffusée lundi prochain, donc tous les lundis qui suivent notre émission à la même heure, donc de 18h30 à 20h. Et sinon aussi pour les adeptes du web, on peut donc écouter Radio Kaleidoscope sur le site radio-kaleidoscope.net. Et sinon donc il y a des écoutes aussi collectives qui sont organisées donc dans un lieu qu'on aime bien qui s'appelle La Mordue. Donc ce sont des écoutes entre femmes et donc ce lieu se situe rue Jacques Thibault,
9 rue Jacques Thibault à Grenoble.
Donc c'est près de c'est pas très loin du campus, c'est à la limite entre Saint-Martin-d'Hères et Grenoble, et donc c'est l'occasion aussi de pouvoir échanger entre femmes un peu sur les thématiques qui sont abordées pendant les émissions.
Et si vous avez des choses à nous dire, des retours ou des questions à nous poser, vous pouvez nous envoyer des mails à degenre@boom.org, donc dégenré E à la fin sans accent et boom boum.org. Ou écrire à Radio Kaleidoscope BP 422 38018 Grenoble CEDEX 1 en précisant que c'est pour l'émission Dégenrée.
Voilà.
Alors ce soir donc comme vous l'a dit Hélène, on va parler des femmes migrantes et du travail du sexe et de l'empowerment, vous allez voir c'est et donc c'est un sujet qui est hyper d'actualité, très intéressant et alors c'est un sujet autour duquel il y a beaucoup de discours depuis plusieurs années autour du trafic des femmes qui viendraient de l'Est, de l'Afrique, et ce serait comme une genre de mafia internationale, et ces femmes seraient toujours présentées comme victimes ou alors comme coupables.
Oui, puis il y a un peu du coup des amalgames qui sont faits. Alors, toutes les prostituées auraient un proxénète derrière elles, elles seraient toutes exploitées, et par exemple, voilà, c'est toujours parlé de manière négative et un peu amalgamée, prostitution, migration, etc. Et toujours de manière négative.
Et on entend rarement, voire jamais, les paroles de ces personnes prostituées, de ces femmes. Et des hommes aussi, d'ailleurs, on les entend jamais non plus. Et là, on s'est dit que ce soir, on allait essayer de voir un peu plus ce qu'est la réalité avec des études qui ont été faites par des associations de santé communautaire.
Alors, les associations de santé communautaire, donc, c'est des associations qui travaillent à parité avec, donc là, en l'occurrence, les personnes prostituées. Mais bon, de la même manière, par exemple, une association de santé communautaire par rapport à la toxicomanie travaillera à parité donc entre des travailleurs sociaux ou médicaux et des personnes toxicomanes. En fait, c'est l'idée que c'est pas les travailleurs sociaux qui travaillent pour le public visé, mais qui travaillent avec, en collaboration et en prenant... Enfin voilà, tout le monde participe autant.
Et donc, en France, par exemple, il y a plusieurs associations de santé communautaire. À Toulouse, il y a une association qui s'appelle Griselidis. Et à Lyon, il y a une association qui s'appelle Cabiria, à partir de laquelle, qui a organisé une conférence il y a une dizaine de jours. Malheureusement, on avait prévu d'en passer des enregistrements. Un problème technique nous a empêchés de le faire. On en est désolé, mais on s'est basé beaucoup à partir de leurs livres qu'elles ont publiés.
Et donc, c'est une étude qui a été menée en collaboration avec plusieurs associations donc, de santé communautaire dans 4 pays d'Europe, donc l'Autriche, la France, l'Espagne et l'Italie. Et voilà, qui est particulièrement intéressante. Donc, c'est une action qui porte sur 2 ans. Et voilà, on a quand même peu l'occasion d'avoir soit des paroles, soit des témoignages, soit des chiffres par rapport à ce sujet. Et donc, voilà, on vous recommande vivement aussi de la lire.
Et donc voilà, ce soir, on va aussi essayer du coup de redonner la parole aux personnes prostituées. Alors même si ce ne sera pas leur voix que vous entendrez à cause de problèmes techniques, on les a sous forme écrite, donc on va vous les lire ce soir et on vous spécifiera quand ce sera des témoignages. Ce soir aussi, on voulait dénoncer les politiques des gouvernements européens qui, sous couvert public de protéger les pauvres femmes prostituées, en vrai, leur but principal, c'est de fermer les frontières, stopper les migrations. Et évidemment, les premières victimes de ces mesures politiques, c'est les personnes prostituées, c'est les travailleuses du sexe qui sont rendues coupables et qui sont punies par des expulsions, par des emprisonnements, par des amendes et par des violences de tous ordres dont on vous parlera plus ce soir.
Oui, tout ça, du coup, se place dans un contexte général de plus en plus répressif qui va vers le tout sécuritaire, la tolérance zéro, et donc qui s'attaque tout le temps aux personnes les plus marginalisées. Donc ça va être les gens du voyage, enfin les dernières lois, les prostituées, les squatteurs, les pauvres, les mendiants, et avec aussi souvent la même idée donc qui est relayée par des mairies de tous bords, hein, franchement... Je veux dire, la gauche a pas fait mieux à ce niveau-là, de nettoyer les rues des villes, quoi, et de, par exemple, repousser les prostituées toujours plus loin à la périphérie.
Donc ce soir, dans un peu tout ce qu'on va vous raconter, on va vous donner quand même plusieurs chiffres. Alors c'est des chiffres qui sont soit des données officielles qui sont données par les pays, soit des ressources qui sont publiées par des instituts de recherche, soit les études faites par les associations de santé communautaire qui sont présentes sur le terrain et qui ont des observations et qui ont un peu des chiffres. Alors c'est des données qui sont pas forcément toujours fiables dans la mesure où c'est un phénomène qui par essence est clandestin, et puisqu'il est illégal souvent, et donc c'est des chiffres qui sont à prendre comme indicateurs de ce phénomène et non pas comme justes ou exhaustifs, hein. Il faut faire attention. Alors c'est souvent basé sur des estimations, des échantillonnages, et donc ça reflète une réalité de terrain très relative. Bon, malgré cela, on peut se dire que c'est quand même un matériau de réflexion qui est concret, et les associations s'attachent à confronter les données quantitatives qui existent avec un regard critique et vigilant et les connaissances qu'elles ont de ce qu'elles voient sur le terrain, en fait.
Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste des chiffres statistiques, comme des fois ça peut se passer, ou c'est juste des questionnaires qui sont distribués, ou des enquêtes par téléphone, ce genre de choses, mais avec plus quelque chose, avec un rapport vraiment avec les personnes qui se déroule sur plusieurs années, avec un certain nombre de discussions, d'ateliers, de groupes de parole, et qui du coup produit aussi quelque chose de plus sincère, de plus intéressant, je trouve, que juste des chiffres.
D'écouter Swad Massi, qui est une chanteuse d'origine algérienne, et elle nous a chanté une chanson qui s'appelle Amessa.
Et donc, pour commencer cette émission, donc, je vous le rappelle, qui est sur le thème de femmes migrantes et travail du sexe, on voulait un peu recadrer ce sujet dans un contexte plus général, déjà d'inégalité entre pays. Et d'inégalité aussi au niveau des rapports sociaux de sexe, donc je veux dire entre hommes et femmes, mais aussi en liant au niveau de la place sociale, mais qui est aussi liée à l'éducation différenciée que reçoivent les hommes et les femmes. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que actuellement, l'écart entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres, il ne fait que s'aggraver. Le revenu des pays les plus riches, il est aujourd'hui 60 fois supérieur à celui des pays les plus pauvres. Et que ces écarts, ils sont encore plus considérables pour les femmes. Et toujours pour continuer avec quelques chiffres, les femmes représentent donc la moitié de la population mondiale, mais par contre, elles fournissent les deux tiers des heures de travail, si on prend en compte tout ce qui est aussi le travail domestique, etc., ou d'éducation, qui en général n'est pas visibilisée et qui n'est jamais quasiment rémunérée. Et elles ne gagnent que 1/10 du revenu mondial et possèdent moins de 1% de la fortune mondiale. Donc c'est quand même assez impressionnant, ces écarts. Et du coup, c'est vraiment intéressant de mettre en relation justement d'un côté la pauvreté des femmes et aussi leur situation d'oppression liée aux inégalités hommes-femmes. Et par exemple, là, actuellement, 70% des personnes qui vivent dans la pauvreté sont des femmes. Et elles ont aussi, dans beaucoup de pays, un taux de scolarisation qui est inférieur à celui des garçons. Et par exemple, pour ce qui est de l'Europe, donc dans les pays de l'ex-bloc soviétique, après la chute du mur de Berlin, la situation des femmes, elle s'est dégradée encore plus avec la perte des fois d'acquis qu'elles avaient eus. Et avec un chômage massif qui est encore plus important que celui des hommes, et aussi un retour à des traditions plus religieuses qui enferment les femmes dans le rôle de mère, d'épouse, femme au foyer. Et dans la majorité de ces pays, les femmes, par exemple, n'ont pas accès à la propriété de la terre. Donc, dans ce contexte, de plus en plus de femmes migrent pour chercher un travail, et où elles deviendront en fait la source principale d'argent de leur famille. Et ça pourtant c'est peu visibilisé. Enfin, l'image du migrant, ça reste quand même encore celui d'un homme qui est soit réfugié politique, soit travailleur immigré. Et les femmes dans la migration, elles sont encore trop souvent seulement vues comme les femmes de, mères de, filles de, dans le cadre de regroupement familial, mais pas vues comme des personnes individuelles qui vont décider de cette migration dans le cadre, par exemple, de chercher un travail. Il y a peu d'études, d'ailleurs, qui sont menées sur l'immigration des femmes. Alors que dans certains endroits, donc pays riches européens par exemple, elles représentent la moitié des migrants en migrantes. Et voilà, la situation pour ces femmes, c'est donc d'autant plus si elles n'ont pas de papier, qu'elles ne sont pas en règle. Et ben, même si elles ont un bon niveau d'études, en gros, il n'existe que deux types de travail dans lesquels il n'y a pas de problème d'embauche, on va dire. C'est soit le service domestique, donc ménage ou soins des personnes, que ce soit les enfants, les personnes âgées, etc. Et soit le travail du sexe. Et l'autre possibilité de migrer, sinon, c'est le mariage. Parce que, voilà, actuellement, elles n'ont pas d'autres possibilités de légalisation. Donc là encore, on voit que les femmes sont enfermées dans des rôles traditionnels. Enfin, où elles ont quand même peu vraiment de choix. Et ces deux domaines de travail, donc le travail du sexe et le travail domestique, c'est justement les travails où il y a soit pas du tout de droits sociaux, soit très peu, et donc qui impliquent une grande insécurité, une précarité dans le travail, qui sont pas régis par les lois du travail, où il y a peu de possibilités d'avoir des syndicats, etc. Et par exemple, en Italie, en Espagne et en France, le travail domestique, c'est le secteur majoritaire d'emploi pour les femmes migrantes. Et c'est en même temps le secteur de travail le moins protégé par le droit. Et donc, on se rend compte que vis-à-vis du travail, les notions de choix et de liberté, elles sont réduites en ce qui concerne les femmes. Et ça, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, même si ça peut s'améliorer dans les pays riches, et il y a encore des écarts aussi à ce niveau-là avec d'autres pays. Et donc on peut dire qu'en règle générale, les femmes, elles optent pour telle option plutôt qu'une autre, donc en fonction du contexte social, économique et personnel dans lequel elles se trouvent. C'est plus un peu d'une option. Mais que les contraintes liées donc au système capitaliste ou patriarcal, entre autres, ils sont en général plus lourdes que le libre arbitre. Donc ces femmes qui ont la volonté de quitter leur pays, elles ont en général ni les moyens légaux, ni les moyens financiers de le faire, d'où le fait qu'elles aient recours à des passeurs. Et par rapport aux hommes, leurs possibilités donc de sortie elles sont, et de travail, donc elles sont moindres. Et ça fait que ce recours à des passeurs, c'est qu'elles se retrouvent aussi plus dans une situation d'exploitation après, parce que ça équivaut à des grandes sommes d'argent qui sont données, qui peuvent créer des phénomènes de dette, comme on le verra plus tard. Et ce qui est quand même assez absurde, c'est que, par exemple, les consulats, ils leur refusent le plus souvent les visas au prétexte qu'elles pourraient être victimes de trafic, surtout si elles sont célibataires, alors là, c'est quasiment sûr. Et c'est vraiment contradictoire parce que c'est justement ça aussi qui les pousse à se tourner vers des intermédiaires, réseaux qui les exploitent. Et là, on voit vraiment toute l'hypocrisie de fermeture des frontières des pays riches. Et que c'est bien l'augmentation de la demande de migration et donc de l'autre côté les politiques de fermeture des frontières qui induisent plus de trafic pour les femmes en particulier. Donc dans ce contexte, certaines femmes optent pour le travail du sexe. Certaines y sont contraintes par la tromperie, la violence ou la menace de tiers. Mais voilà, entre ces deux extrêmes, comme Marina vous l'expliquera après, il y a différents degrés en fait.
À l'aveuglette et à la vodka, et quand elle était seulette, elle en sifflait trois. Elle tenait une guinguette près d'un bar tabac. Tous les samedis c'était la fête rue des Petits Pas. Les soirs de pluie et de tempête jouait de l'ocarina, offrait à toute la guinguette des citrons vodka. quand elle fermait après minuit. Elle ne dormait pas, sa chambre éclairait toute la nuit la rue des petits pas. Elle fumait des cigarettes, roulait son tabac, se parfumait à la violette, des bagues à chaque doigt. Personne connaissait sa vie, ses joies, ses tracas. Elle avait pour seule amie une fille d'Alaska. Une année n'est pas venue, cette fille d'Alaska, pourtant nous l'avions attendue, rue des petits pas. Elle a fermé, elle est partie, on n'y croyait pas. Sa chambre éclaire jour et nuit la rue des petits pas. Elle a fermé, elle est partie, on n'y croyait pas. Sa chambre éclaire jour et nuit la rue des petits pas. Elle marchait à l'aveuglette, elle marchait à la vodka, se parfumait à la violette, se parfumait à la vodka. Elle a fermé, elle est partie.
Donc on vient d'écouter un morceau d'un groupe de lesbiennes marseillaises, Belladonna 9CH, et le morceau s'appelait Rue des Petits Pas. Et voilà, vous êtes toujours sur Dégenré.
Donc comme vous l'a dit Amélia tout à l'heure, on va essayer de voir de réfléchir autour du processus migratoire. Et avant ça, on va voir quelles sont en général les causes du départ. Pourquoi les femmes quittent leur pays, pourquoi les femmes font ce choix ou prennent cette décision. Alors, les associations de santé communautaire, notamment, dont on a parlé, dont on vous parle tout au long de l'émission aujourd'hui, ont, à partir d'interviews et à partir des contacts quotidiens qu'elles établissent avec les femmes, elles ont pu identifier les raisons personnelles qui poussent ces femmes à envisager leur départ.
Et déjà, oui, peut-être on l'a pas vraiment précisé au départ, c'est que la majorité des femmes, du coup, qui ont été interrogées, etc., et en rapport avec les associations, viennent soit plutôt de pays d'Europe de l'Est, soit plutôt d'Afrique de l'Ouest, dans les villes où il y avait les associations, parce qu'après ça peut changer selon le contexte.
C'est ça, mais en général on va spécifier, je pense, d'où viennent les femmes quand on dira leur témoignage. Alors, on verra qu'il n'y a jamais une seule raison en jeu, mais plutôt un faisceau d'éléments qui se conjuguent et qui, en plus d'un pays à l'autre ou d'une culture à l'autre, les causes principales peuvent être différentes. C'est très important d'écouter ce que disent les femmes migrantes des causes de leur départ, parce que la raison du libre choix est souvent discutée et souvent mise en doute, et on verra tout à l'heure que, pour la majorité d'entre elles ont choisi, ou en tout cas elles ont décidé de quitter leur pays. Alors, parmi les raisons qui reviennent le plus souvent, on retrouve pour échapper aux discriminations de genre, que ce soit le mariage forcé, l'assignation au service domestique ou à la maternité, et le non-accès à la formation, au travail, à la propriété, comme on en a déjà parlé. Une des raisons qui est évoquée aussi, c'est la volonté de développer les possibilités économiques pour elles et pour leur famille. Donc les femmes sont de plus en plus souvent les principales pourvoyeuses de ressources, et souvent elles souhaitent se constituer un capital pour investir. Il y a souvent aussi quand même la pression de la famille qui peut s'exprimer sous forme de solidarité familiale, c'est-à-dire qu'une des filles de la famille est sollicitée, choisie ou même désignée. Ou ça peut être aussi l'époux ou le fiancé qui peut exercer une pression assortie ou non de violence. Une des raisons aussi qui ressort le plus souvent, c'est une volonté de s'individualiser et d'augmenter son capital social et culturel, découvrir d'autres pays, d'autres modes de vie, s'instruire et développer des projets personnels. Alors, dans ces faisceaux de causes de départ, certaines causes sont plus fréquentes dans certains groupes en fonction des pays ou des cultures d'origine. Donc là, on va écouter quelques petits témoignages
qui illustrent assez bien ces motivations de départ. Donc par exemple, F, donc on appellera F, qui est nigériane, explique qu'elle est partie pour échapper à la pression familiale, parce qu'elle avait été promise à un ami de son père et devait se marier.
R, albanaise, explique. Je suis allée 4 ans à la fac, mais là-bas, pour une femme, il n'y a pas d'autre perspective que le mariage. Alors je suis partie.
Donc dans une interview donc, réalisée par l'association Kabiria, donc une autre femme explique « Je suis née en 1977 au Nigeria. Je suis célibataire et j'ai un enfant de 5 ans à charge. Je suis issue d'une famille très pauvre. Mon itinéraire, Nigeria-Mali par la route et Mali-France par avion. Arrivée en France, j'ai été internée dans un centre de rétention. » Et donc elle ne souhaite pas parler ni des conditions, ni du lieu. Elle a vraiment les larmes aux yeux. Donc elle a fait un séjour à Paris après et ensuite elle a été libérée. Elle dit « Je suis à Lyon depuis mars, j'ai fui la pauvreté, je veux des papiers et je veux faire venir mon enfant et le scolariser pour lui donner sa chance. J'ai un frère et 2 sœurs, je suis consciente de mon sacrifice. Pourquoi moi ? Mon frère n'avait pas d'argent pour le voyage et l'opportunité de sortir du pays ne s'est pas présentée. Mes sœurs ne veulent pas se lancer dans l'aventure, elles préfèrent vendre des bricoles au marché. » Elles sont très pauvres, mais pour le moment, elles se contentent de cette situation. Concernant mon voyage, ma mère était très inquiète, mais elle savait que si j'arrivais en Europe, j'enverrais de l'argent.
Une autre femme, N. Russe, explique. J'étais journaliste dans mon pays, en total désaccord avec le pouvoir. Mais comme mon pays est considéré comme un pays sûr, je n'ai pas pu obtenir l'asile politique. Je ne pouvais plus travailler ni vivre tranquille, alors j'ai décidé de partir.
Donc un autre témoignage, cette fois recueilli par l'association Griselidis à Toulouse, c'est celui d'une femme ukrainienne qui dit « J'ai 20 ans. Je suis née à la campagne et mon père est mort quand j'étais toute petite. C'est ma mère qui m'a élevée. Elle m'a donné une éducation assez sévère. Je n'avais pas le droit de sortir le soir, de traîner dans la rue. Elle voulait que j'aie de bons résultats scolaires pour pouvoir faire un travail intéressant plus tard. J'ai passé mon bac et je me suis inscrite à la faculté. Comme ma mère n'avait pas beaucoup d'argent, je devais travailler pour payer mes études. C'est à cette période que ma mère est tombée malade, très gravement. Chez nous, pour se soigner, il faut de l'argent, beaucoup. Pour passer la porte de l'hôpital, il faut payer. Pour dire bonjour à un médecin, il faut payer. Ce qu'on avait comme argent a vite fondu. Le médecin a fini par nous dire qu'il fallait une opération très grave et une hospitalisation de 3 mois. Ça nous coûterait environ 5000 euros. Nous, on les avait pas. Et personne, ni dans notre famille, ni parmi nos amis, n'avait une somme pareille. Je savais, ma mère aussi, que sans cette opération, elle ne survivrait pas. Ma mère, c'est tout pour moi. Je n'ai qu'elle au monde. Elle a toujours tout fait pour moi. Elle a sacrifié beaucoup de choses pour moi. J'ai cherché des solutions. Parfois même, j'ai eu des idées folles. Je voulais voler des gens riches. Je sais pas toutes les bêtises que j'ai pensées. J'ai beaucoup pleuré. Je me disais que si ma mère mourait, ce serait de ma faute. Enfin bref. Et puis j'ai entendu, par des copines à la fac, parler d'une agence qui recrutait des jeunes filles pour travailler à l'étranger. Il s'agissait d'emplois de serveuse, ou même, si on avait de la chance, de danseuse.
On voit donc que les facteurs déterminants de la migration, c'est-à-dire les conditions de la décision de départ, sont liés aux rapports sociaux de sexe et au degré de démocratisation, au degré de corruption ainsi que le degré de liberté laissé aux individus dans le pays d'origine. Et contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas toujours les plus pauvres ni les plus démunis qui partent, mais plutôt les femmes qui ont un bon niveau de scolarisation, celles dont la famille a déjà quelques ressources financières ou celles qui travaillaient déjà avant leur départ. Et les femmes très pauvres issues de zones rurales sont assez minoritaires parmi les personnes que rencontrent les associations. Alors, on parlait de processus migratoire tout à l'heure. Alors, ce processus migratoire, Amélia en a déjà parlé tout à l'heure d'un continuum. C'est l'idée de faire de faire des degrés, en fait, dans les causes de départ et dans comment ça se passe. Et alors, on pourrait voir une espèce d'échelle où il y aurait 2 extrémités. Et à l'intérieur desquelles diverses expériences peuvent se cumuler et parfois se chevaucher. Alors, à une extrémité du continuum, il y a les expériences extrêmement violentes de viol, d'enlèvement, de maltraitance, avec beaucoup de violence et d'abus. Et à l'autre extrémité du continuum, on va trouver des femmes qui voyagent grâce à des réseaux de solidarité, c'est-à-dire celles qui sont déjà installées, aident leurs amis ou les membres de leur famille à venir sans contrepartie. Alors ces deux types de situations, les deux extrémités du continuum, sont assez minoritaires. Et entre ces deux extrémités, on voit plusieurs autres raisons.
Degré de contrainte.
Voilà, voilà, c'est dans les degrés de contrainte. Il y a par exemple l'union légitime, c'est-à-dire qu'un homme va forcer son épouse à travailler pour lui ou va se fiancer avec une jeune femme et va lui promettre une vie meilleure en Europe de l'Ouest. Et arrivée dans ce pays d'Europe de l'Ouest, la jeune femme n'osera pas s'opposer à la domination qu'il exerce sur elle, parce que pour elle, peut-être, cette domination est légitime, et pour des raisons, par son éducation, sa culture...
Oui, ou la violence sera trop forte pour que, même simplement, elle puisse, en tout cas au départ, s'y opposer.
On trouve aussi des femmes qui traitent avec les gens, qui facilitent leur voyage à l'étranger, donc ça peut être leur agent de voyage. Et c'est un service qui coûte très très cher, mais qui est habituellement assez fiable pour elles. Elles négocient essentiellement avec des agences de passeurs qui d'ailleurs, dans leur pays d'origine, ont souvent pignon sur rue, c'est-à-dire que c'est des agences avec vitrine qui donnent sur la rue comme des commerces. C'est des commerces, donc ça, par rapport à l'idée qu'on aurait de mafia secrète, bon, bah, dans leur pays c'est quelque chose d'assez ouvert. Et bon, dans d'autres circonstances, les arrangements reposent sur la parole donnée, sur le service rendu. Alors, il y a des nouveaux départs qui s'organisent dans des réseaux d'interconnaissance entre les jeunes femmes qui sont restées au pays et qui cherchent à partir, et celles qui sont déjà arrivées à destination et qui fournissent l'information nécessaire, c'est-à-dire à qui s'adresser, où, pour quelle somme, etc. Et ça, c'est déjà une pratique très très courante, en particulier en Afrique de l'Ouest, pour les migrations locales. Et dans cette multiplicité de possibilités, certaines femmes ont des liens d'amitié et de solidarité avec les intermédiaires. Bon, d'autres ont été trompées par des individus qui profitent du contexte favorable au trafic. Mais c'est pour dire qu'il y a plein de raisons multiples et qu'il n'y a pas juste une idée de trafic, il y a vraiment toute une échelle et tout plein de degrés. Et alors, et par rapport à l'idée de décision et de choix, il y a une étude qui a été réalisée en Belgique en 2003 qui montre que 7% des femmes de l'étude déclarent avoir été kidnappées, 8% déclarent avoir été contraintes par un tiers, et ça c'est assez confirmé par les observations des associations, où 19% des femmes déclarent un départ contraint. Mais dans presque tous les cas, la contrainte, elle est exercée par un des proches, par les parents, par le fiancé ou par le mari. Et il y a, dans l'étude réalisée, un seul cas de rapt qui a été perpétré par des inconnus. Et donc, parmi les 81% de femmes qui sont parties volontairement, et j'insiste assez sur ce chiffre, 81% des femmes qui sont parties volontairement, on retrouve, comme d'ailleurs dans l'étude belge qu'on voyait tout à l'heure, des raisons qui sont liées aux besoins d'une vie meilleure, au fait de pouvoir gagner de l'argent, aux contraintes sociales et politiques dans le pays d'origine, et comme on le verra plus loin, ben finalement c'est plus au cours du processus migratoire, c'est-à-dire au cours du voyage vers le pays, et une fois arrivé dans le pays, dans le pays occidental européen de l'Ouest, c'est une fois arrivé là que les contraintes vont se révéler. Alors, une des grandes raisons aussi de migrer vers un pays occidental, c'est bien sûr l'argent qu'elles ne peuvent pas gagner dans leur pays d'origine. Mais alors, pour venir, elles vont devoir contracter des dettes, parce que ça coûte assez cher. On a vu tout à l'heure, elles payent des agents de voyage ou des passeurs... Ça coûte assez cher et c'est des dettes qui peuvent s'échelonner entre 2 000 € et 45 000 € et qui sont variables en fonction du pays d'origine, de la prestation achetée, le visa, le contrat de travail, passeport, voyage, passage illégal des frontières, etc. Et du type de négociation qui a eu lieu entre la personne et ceux qui ont organisé le voyage. Alors c'est une dette qui peut être contractée par la femme elle-même, mais bien souvent la famille aussi est impliquée. Soit parce que des membres de la famille ont avancé l'argent qui doit être remboursé, soit parce que c'est la famille qui s'est portée garante au pays de la dette. Et dans tous les cas, la famille qui a envoyé ou laissé partir des filles attend une aide financière pour améliorer ses conditions de vie. Et ça, c'est valable pour tous les migrants, hein. Hommes et femmes, légaux ou illégaux.
Et par exemple, l'association Kabiria, dans son travail de terrain, rapporte dans son journal... l'opportunité du départ de paix a été arrangée avec l'approbation de sa famille. La part qu'elle leur envoie régulièrement est généreuse. Le dernier versement, par exemple, est de 1 000 €. Somme qui permettra d'acheter une nouvelle maison, de payer les études de ses frères et sœurs et de faire venir l'eau chaude à la maison, selon elle. Elle a donné 900 € à son patron et s'est envoyé 800 € sur son compte personnel au pays.
Et donc on a un autre témoignage qui vient du journal de terrain de l'association espagnole Licite. M vient d'une zone rurale. Cela fait un an et quelques mois qu'elle est à Barcelone. Elle a migré d'elle-même, avec une amie, pour travailler ici comme travailleuse du sexe. Elle a un fils de 11 ans, dont s'occupe sa famille en Roumanie. Quand elle leur téléphone, la première chose qu'on lui demande est « Quand est-ce que tu envoies de l'argent ?» Et M en envoie quand elle l'a touché. Sa famille ne sait pas à quoi elle se consacre en Espagne. En Roumanie, elle était comptable. Elle a essayé d'acheter une offre d'emploi, mais elle s'est faite escroquer.
Donc encore un autre témoignage de R, brésilienne, 45 ans. Je suis là depuis 5 ans, je fais des allers-retours. J'ai réussi à faire construire un hôtel donc dans une ville, sur une plage, dans la région de Sao Paulo. Lorsqu'il sera fini, je rentre et je fais tourner mon affaire. Il est très bien placé. Il y a beaucoup de touristes et de polistes qui viennent en week-end. Nous, entre brésiliennes, on s'entraide. Pour venir, on est solidaires, parce qu'on est un groupe d'amis.
Alors certaines femmes, pour rembourser leur dette, vont la rembourser assez vite. Mais d'autres, malheureusement, doivent travailler des mois et des mois, parfois sans pouvoir atteindre le montant requis qui peut être faramineux, comme on a pu le voir. Ce qui est important, c'est que aussi, même si cette dette elle est excessive, et même si les conditions de remboursement elles sont coercitives, enfermantes, liées à des rapports violents avec les personnes avec qui elles doivent l'argent, beaucoup de femmes ont quand même un fort sentiment de loyauté et d'obligation, c'est ce qu'elles expriment. Et ce lien par la dette, qui peut vraiment devenir une servitude, hein, est effectivement un abus des droits humains, mais aujourd'hui, et ça c'est très important, dans tous les cas, entrer en Europe de l'Ouest sans intermédiaire est impossible. Et c'est bien pour ça qu'elles contractent ces dettes, c'est parce que le plus important pour elles, c'est de fuir leur pays, enfin c'est de venir en Europe de l'Ouest.
Oui, c'est encore une fois la fermeture des frontières qui génère ce genre de situation d'exploitation et d'abus.
Yeah.
on vient d'écouter un morceau d'Arum Skarum, donc un groupe de lesbiennes américaines. Et le morceau s'appelait Violent Measures, et ça parle un peu des... en gros, du fait que l'État, les gouvernements instaurent la loi sur des mensonges et l'utilisation de la violence. Et voilà, elle dénonce la répression par l'État et de la police, entre autres, dans ce morceau. Et donc après avoir un peu expliqué ce contexte migratoire, on voulait un peu vous parler de la situation donc, dans les quatre pays de l'étude, donc l'Autriche, l'Espagne, la France et l'Italie, par rapport à, aux travailleuses du sexe, mais du coup là spécifiquement par rapport aux travailleuses du sexe migrantes, donc en général dans une situation plus ou moins illégale. Donc... en France, par exemple, elles ne peuvent pas obtenir de régularisation par ce travail. Et actuellement, les demandes d'asile sont très limitées, le regroupement familial aussi. Et la seule régularisation qui reste possible, c'est le mariage. Donc voilà, et encore, ça va aussi dans un truc de plus en plus limitatif. Et ben du coup depuis 2002 et aussi les lois sur la sécurité intérieure, donc avec la loi de racolage passif donc qui a été instaurée par Sarkozy, il y a une sorte de contradiction parce que donc la prostitution n'est pas interdite. Parce que la France, c'est dans une politique abolitionniste, c'est-à-dire que le but ça serait d'éradiquer la prostitution. Mais la prostitution n'est pas interdite, sauf que dans les faits, les femmes travaillent, ou les travailleurs et travailleuses du sexe en général peuvent se faire arrêter pour le délit de racolage passif. Alors, sauf que voilà, c'est au bon vouloir du policier de décider qu'est-ce qui est du racolage passif. Donc, ça va de une tenue jugée trop provocante ou au simple fait d'être en station, enfin debout dans la rue à une heure qui ne paraît pas normale pour une femme d'y être.
Et là, par exemple, il y a une femme africaine qui dit, qui témoigne justement, qui dit qu'un jour, elle avait alerté la police alors qu'un homme cassait des véhicules à proximité de son lieu de travail. Et les forces de l'ordre sont intervenues en l'arrêtant, elle, pour racolage, sans doute parce que sa tenue devait être jugée trop provocante.
Oui, c'est sûr. Et du coup...
Oui, donc ça, c'était juste pour illustrer un peu ces politiques sécuritaires et montrer à quel point c'est complètement arbitraire. C'est par exemple les forces de l'ordre qui... tout à coup estime que telle ou telle attitude est un délit, quoi.
Oui, donc toujours pour la France, les femmes migrantes prostituées, elles sont considérées donc comme victimes de trafic seulement si elles dénoncent leur proxénète. Donc elles peuvent obtenir des droits juste en échange d'une dénonciation, ce qui en général est quasi impossible pour elles, mais bon, ça on y reviendra aussi plus tard. Pour ce qui est de l'Italie, y a à peu près la même situation d'un renforcement des expulsions, une limitation des possibilités pour les travailleuses clandestines. Bon, il n'y a pas de disposition spéciale par rapport à la prostitution. Alors, du coup, dans un contexte un peu différent, en Autriche, la prostitution est ce qu'on appelle réglementarisée. Donc, elle est autorisée, mais elle est autorisée juste dans les établissements donc, qui sont gérés par des patrons qui en profitent aussi pour prendre, ça peut aller jusqu'à 70% du salaire des personnes prostituées. Et donc beaucoup préfèrent encore travailler dans la rue malgré les risques, mais bon, ce qui est à peu près quasi impossible. Et par contre, et ben, pour celles qui sont dans une situation illégale, ça leur permet pas du tout d'obtenir des droits comme vraiment un droit à la santé, enfin aux services sociaux, enfin aux droits communs des autres habitants du pays. Et leur renouvellement, enfin donc du coup elles ont des permis de séjour et de travail qui sont limités, par exemple pour 3 mois, et le renouvellement, c'est le patron de l'établissement qui s'en occupe, et ça permet aussi qu'ils puissent faire pression sur elles, qu'elles ont encore moins de possibilités de se rebeller par rapport à leurs conditions de travail, parce qu'il peut les tenir avec le truc, ben voilà quoi, si t'ouvres trop ta gueule, et ben t'auras pas, voilà, moi je peux te faire expulser. Aussi parce qu'en général, ils sont pas mal en lien avec la police. Et pour ce qui est de l'Espagne, bon, là, l'étude, elle se portait plus sur Barcelone, où en fait, il y a un lobby important des patrons du coup d'établissements, et donc un lobby qui est aussi pas mal affilié à l'extrême droite, et eux, leur principale revendication, ça serait que la prostitution, ça soit plus que des femmes migrantes, avec tout un discours pour protéger la vertu et l'innocente des vraies femmes espagnoles, tout ça, et du coup la prostitution, ça serait plus que les femmes migrantes, donc ils font toute une pression là-dessus, et aussi pour interdire la prostitution de rue. Donc, on voit que les 4 pays de l'étude, ils présentent une situation de contrainte extrême, où les femmes prostituées migrantes, elles ne sont pas considérées comme des citoyennes à part entière. Et du coup, on peut considérer que les pays, que ce soit avec des systèmes réglementaristes, ils répondent pas plus aux droits des femmes et ils luttent pas plus contre la violence que les pays ayant des politiques abolitionnistes.
Et ils sont toujours dans des logiques racistes, parce que quand même, fondamentalement, c'est bien ça l'idée, quoi.
Ouais, c'est clair. Et du coup, tout ça pour dire que, voilà, quand on parle de, par exemple, dans les médias, de violence par rapport aux prostituées, tout de suite, ce qui est montré, c'est la violence des méchants trafiquants, donc qui sont présentés en plus comme des étrangers, enfin avec tous les trucs racistes qu'il y a, alors que c'est pas si simple que ça. Alors que quand on interroge les femmes elles-mêmes, la première violence qu'elles citent, que ce soit dans tous les pays de l'étude, c'est celle de la police. Et dans aucun de ces pays, les femmes ne font confiance à la police. Pour elles, voilà, les policiers, ils sont là pour les contrôler ou les expulser. En aucun cas, elles ne pensent qu'ils puissent les aider ou les protéger, ce qui est logique car sous couvert de lutter contre le proxénétisme et le trafic, la police les harcèle, traque toutes les sans-papiers, donc que ce soit dans la rue ou dans les établissements, avec comme mission de faire du chiffre et nettoyer les villes. Donc par rapport à ça, on va lire quelques témoignages de femmes ou de rapports des associations.
Donc, d'après le journal de terrain de l'association Licite, à Barcelone, lorsqu'on leur demande quelles sont leurs principales difficultés, elles n'hésitent pas. Elles répondent que c'est la police, parce qu'ils nous demandent les papiers, que nous n'en avons pas et font fuir nos clients. La garde urbaine, la police locale de Barcelone, les harcèle dans la rue plusieurs fois par jour. On te demande tes papiers et comme tu les as pas, on t'emmène au centre d'internement pour étrangers. Pour plusieurs femmes, affirment que souvent, la manière dont elles sont traitées dépend de la bonne volonté du policier qui intervient dans la détention. Quelques-unes font référence à des coups de la part des hommes policiers comme un élément dissuasif pour que nous restions tranquilles. « Face à la menace, tu peux rien faire, parce que ce serait encore pire », dit l'une d'entre elles, en faisant clairement référence à la situation d'irrégularité administrative. Dans n'importe quel cas, malgré l'augmentation de la précarité et des situations à risque, les degrés différents de désespoir et d'angoisse, toutes les femmes consultées en Espagne recommenceraient à émigrer dans le cas où elles seraient expulsées.
Et quand même, sur la situation de l'Espagne, il faut aussi rappeler que dans les médias officiels en France, on entend dire « Ah, il y a des grandes vagues de régularisation de personnes sans papier en Espagne, etc. » Mais qu'en fait, il y a énormément de discrimination au sein même de ces, on va dire, régularisations. Et que je pense, par exemple, que ces femmes-là sont un peu les dernières à avoir accès à la régularisation. Parce que pour ça, il faut fournir énormément de preuves. Preuves qu'on n'a pas quand on a débarqué en Europe, que notre travail n'est pas du tout reconnu, etc. Et sinon, là, en France, on a un autre témoignage, cette fois-ci donc recueilli par Griselidis à Toulouse. « Il y a une semaine, j'ai été agressée par un homme. Il m'a volé mon sac, mon téléphone, mon argent, ma veste. Il m'a menacée avec un grand couteau qu'il a mis sur ma gorge, puis il m'a jetée par terre. Une de mes copines, qui parle français, a appelé la police. Il était 3h du matin. Le policier a demandé ce que je faisais à cette heure-là dehors. Ma copine a dit qu'on était prostituées. Le flic a raccroché. Pourtant, j'avais la description du type, de sa voiture, mais ça n'intéresse pas la police. »
Extrait du journal de terrain de Cabiria, association à Lyon. « Seules les étrangères sont interpellées. Chaque jour, chaque nuit, on assiste à plusieurs arrestations, avec violence et menaces de la part de la police. Fouilles au corps, déshabillage, privation de nourriture, humiliation, etc. Les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 24 heures et se répéter plusieurs fois dans une même semaine. Quel que soit l'endroit de la ville où elles travaillent, elles sont chassées par la police dans les endroits les plus reculés et les plus dangereux. Les interdictions de travailler dans certaines rues changent au gré des humeurs de la police et de la mairie. Les policiers dressent les communautés les unes contre les autres en procédant à des arrestations sélectives et en disant aux unes que c'est la faute des autres et vice-versa. Par exemple en disant aux Françaises que c'est la faute des femmes de l'Est, aux Camerounaises que c'est la faute des Nigérianes, etc. La police pratique, globalement, une tactique de harcèlement permanent et sporadique. Ils espèrent un pourrissement des relations entre les différents groupes de prostituées.
Donc par rapport à cette politique répressive qui est menée à leur encontre, donc de violence, de mépris, etc., de la part des policiers, il y a un groupe de personnes prostituées de la rue Montrochet, donc à Lyon, qui a envoyé une lettre de protestation au procureur de la République. Donc c'était voilà, c'était suite au passage donc des nouvelles lois Sarkozy. Et donc cette lettre date du 12 mai 2004. Donc dans cette lettre, elles disent: depuis un mois, nous subissons de multiples violences de la part des différentes polices. Harcèlement, contrôle, déplacement, menaces, enlèvement des véhicules, abus lors des gardes à vue, vol de notre argent, insultes racistes, chasse aux clients. Plus particulièrement, nous dénonçons les pratiques extrêmement violentes et le harcèlement de la BAC. Nuit et jour, ils interviennent sur le terrain, se faisant parfois passer pour des clients pour nous interpeller ou se servant du fait d'être clients par ailleurs pour mener la répression. Connaissance des tarifs, chantage à la loi, pressions diverses. Les abus lors des mises en garde à vue sont nombreux et les conditions d'arrestation sont celles des criminels dangereux. Arrivée des policiers dignes d'une prise d'assaut, irruption des policiers jusque dans les camionnettes avec torches électriques, ordres criés et menottes, obligation de se déshabiller et de rester nu en cellule, refus de donner à boire et à manger, de consulter un médecin, d'appeler son avocat et de faire appeler un proche. Les exemples ne manquent pas. Ce mois-ci, une femme a été arrêtée et placée en garde à vue pour racolage par la BAC. Elle a été emmenée menottée à l'hôtel de police où elle a été contrainte de passer la nuit nue dans une cellule. À la fin de la nuit, la police a dû la faire hospitaliser en urgence. Elle n'a pas pu voir de médecin ni d'avocat durant sa garde à vue alors qu'elle souffrait de diabète et qu'elle l'avait signalé aux policiers. Cet exemple n'est pas un cas isolé puisque bien d'autres femmes ont été placées nues en garde à vue. De même, les 9, 10 et 11 mai 2004, une autre jeune femme a été retenue 48 heures en garde à vue, nue, sans manger et sans boire, à l'hôtel de police et au commissariat du 2e arrondissement. Donc inutile de préciser que toutes les situations qu'elles décrivent dans cette lettre sont complètement illégales au vu de la loi, que les policiers, du coup, n'ont normalement pas du tout à avoir ce genre de pratique, que c'est formellement interdit, mais... Ça n'empêche pas grand-chose quand il s'agit de ces catégories de population, manifestement.
Je vais vous lire un communiqué de l'association toulousaine Griselidis. La guerre aux femmes bat son plein. Près de 40 femmes prostituées ont été raflées dans les rues de Toulouse cette nuit du 23 au 24 novembre 2004 par divers corps de police. Bilan provisoire des dégâts. 7 femmes expulsées, 12 comparutions, 1 mois de prison avec sursis, avec 5 ans de mise à l'épreuve, qui permet de les arrêter et de les remettre en prison n'importe quand. À Toulouse comme ailleurs en France, mais à Toulouse tout particulièrement, les conditions de vie des personnes prostituées ne cessent de s'aggraver depuis la loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003. Il y a mise en danger volontaire d'autrui. Nous ne cesserons de dénoncer tout cela, mais nous ne nous laisserons pas submerger par le découragement, malgré l'épuisement dû au manque de moyens et à la surcharge en urgence, entretenue l'un et l'autre par le gouvernement. La répression n'arrête pas le progrès, et inversement. Il y a quelques mois à Lyon, les policiers suivaient le bus de prévention de Cabiria et arrêtaient les femmes qui en sortaient. À Toulouse, ils poursuivaient une femme prostituée jusque dans les locaux de Griselidis, qui avait alors subi des menaces de poursuite pour entrave à l'exercice sportif de ces messieurs en uniforme. Nous avons déjà alerté de nombreuses fois les associations, la presse, les institutionnels sur la situation catastrophique et absurde des personnes prostituées.
Voilà, donc il s'agit de quelques témoignages, mais ça montre bien là quand même depuis au moins 2 ans et le passage de ces nouvelles lois qu'il y a une recrudescence de violence. Et aussi, là il s'agissait de la police, mais le fait que la police permette ça, enfin et soit même l'auteur des violences, ça fait aussi que les passants, les clients, etc., peuvent aussi se permettre de beaucoup plus se lâcher, parce que c'est la même chose. Ils savent que s'ils agressent une prostituée, de toute façon, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire ? C'est quasi impossible de... c'est en tout cas très difficile de porter plainte. Et d'autant plus que non seulement il y a quasiment jamais de suite, par exemple, si une femme prostituée porte plainte, par exemple, pour viol, mais que la police est aussi auteur de viol, parce que, par exemple, en France, il y a eu plusieurs cas d'abus sexuels et de viol de personnes prostituées par des policiers en l'espace juste de quelques mois après le vote de la loi sur la sécurité intérieure. Et on ne peut pas parler de bavure parce que isolée. Parce que ces crimes, par exemple, ils ont souvent été commis en groupe et ça laisse imaginer une complicité collective vis-à-vis de l'abus de la force. Donc la police peut commettre ces crimes avec une quasi-impunité. Les femmes, en fait, elles finissent par percevoir ce harcèlement policier tellement il est quotidien, comme une partie intégrante de leurs conditions de vie. Parce qu'elles sont elles-mêmes définies comme illégales. Et quelque part, vu que la police elle est censée faire appliquer la loi, il y a le fait que si la police fait ça au quotidien, ça devient presque banalisé à cause de leur situation illégale, ou vu que leur peur principale, c'est de perdre leurs papiers ou d'être expulsées. Ça crée aussi que, par exemple, en France, les premiers mois, les femmes, elles étaient vraiment révoltées par les conditions de mise en garde à vue. Et petit à petit, elles se sont seulement estimées être chanceuses si elles n'étaient pas trop maltraitées ou expulsées. Donc c'est vraiment inquiétant par rapport à la situation. Et je pense que c'est important d'agir. Et je pense qu'on pourra aussi vous donner ensuite, par exemple, le contact de l'association Griselidis, qui, par exemple, là, pour le cas de ces rafles de personnes prostituées, lance une pétition ou plus, d'écrire des lettres aussi à les préfectures, en tout cas vraiment de se montrer solidaire envers les personnes travailleuses du sexe.
Yo seré tu matasana, tú serás paciente mía. Yo me saco una carrera, yo te
Y hay un chico que ha aplastado por un taxi en la calzada. Han llamado a una ambulancia, que a frenar donde le place. Y anda gente atropellada. La policía colabora con el siniestro pasado. Averigua con preguntas a los enfermos aplastados. Que el seguro se ha pagado. Y espérate con alegría, seguridad social.
On vient écouter un morceau d'un groupe espagnol qui s'appelle Desmascaradas et le morceau s'appelle Seguridad Social. Alors, puisqu'on vous parlait un peu des réalités vécues par les femmes migrantes travailleuses du sexe et notamment aussi des violences qu'elles reçoivent, alors on voulait un peu parler du proxénétisme, des proxénètes qu'on considère souvent comme alors une espèce d'image unilatérale d'hommes violents. Alors les proxénètes en France, c'est assez compliqué parce qu'en fait la loi définit le proxénétisme comme le fait de profiter des gains de la prostitution d'autrui ou d'aider de quelque manière que ce soit à la prostitution. C'est-à-dire par exemple que louer un appartement à une personne prostituée pour qu'elle y exerce son travail de prostitution, eh bien le propriétaire peut être poursuivi pour proxénétisme, ce qui effectivement fait que les propriétaires ne louent plus aux personnes qui savent qu'elles sont prostituées et que les prostituées se retrouvent plus dans la rue. Enfin bref, c'est un enchaînement, et c'est pour dire que du coup, quand on parle de proxénète, c'est assez compliqué, et en plus on dit que les lois contre le proxénétisme, elles sont présentées pour protéger les femmes, et en fait on se rend compte, enfin de nombreuses études montrent que les textes réprimant le proxénétisme sont très souvent utilisés pour réprimer la prostitution elle-même. Alors, en plus, dans les études de terrain, bon, on se rend compte que effectivement, il y a des femmes qui sont exploitées par des tiers, mais dans la majorité des cas, elles ont des relations de type conjugal avec leur proxénète, et en général, c'est difficile pour elles-mêmes d'identifier la non-légitimité de la violence et de l'exploitation, puisque, enfin, par rapport à une femme qui est victime de violences conjugales lors de son mariage, ça rend des situations un peu complexes. Alors, on peut écouter le témoignage d'une jeune femme qui explique comment elle est restée 10 ans avec son fiancé proxénète.
Alors, donc, c'est le témoignage. Je cherche la bonne page parce que, voilà, on a pas mal de témoignages. Voilà. Donc, elle nous dit « Il m'avait promis une vie de couple à l'étranger. » un mois après de séjour là-bas, il m'a expliqué que je devais travailler comme prostituée. Je n'étais pas d'accord. Il a commencé alors à être violent avec moi et m'a obligée de commencer. Avec du recul, je pense que c'était plus facile pour lui de me menacer. J'étais très amoureuse de lui et j'ai donc accepté de me prostituer. Il m'avait dit alors que c'était pour un temps court, style un an. Son projet était qu'une fois avoir gagné assez d'argent, on retournerait au pays pour acheter un petit business, style un restaurant, se marier et vivre ensemble. Je lui faisais confiance. J'ai tenu comme ça avec des promesses de lui pendant 5 ans. On était tout le temps ensemble en dehors du travail, sa pression était donc quotidienne, ainsi que ses promesses d'amour. Nous vivions une vraie vie de couple en dehors. Après quelques années, je voulais alors le quitter. Même si j'étais toujours amoureuse, je ne lui faisais plus confiance. Je suis restée un an sans aucune nouvelle de lui, ni appel, ni menace. Plus tard, j'ai su qu'il avait alors payé quelqu'un pour me tuer lors de mon départ d'Italie sur le quai de la gare. Pour une question de minutes, la personne en question m'a ratée. Au bout d'un an, il est revenu au pays, et comme on était voisins, je l'ai revu. J'ai craqué à nouveau, et j'ai recommencé à le revoir, et lui ai donné une deuxième chance. Je suis repartie donc en 2000 pour l'Europe, toujours en bateau, car je n'avais aucun papier.
Alors, d'autres femmes envisagent de manière totalement différente la relation qu'elles ont avec le proxénète ou avec le trafiquant. On peut voir, on peut écouter la définition qu'en ont des femmes russes, donc la définition qu'elles ont du terme de trafiquant pour expliciter mieux ce que je viens de dire.
La conversation se fait en russe. Une jeune femme russe demande des explications sur les termes trafiquant proxénète. L'interlocutrice de Kabiria lui dit que ce sont des hommes qui achètent et vendent des femmes et les forcent à travailler sur le trottoir. Ayant compris, elle s'exclame soudain « Ah, des hommes d'affaires ! Businessman !» employé dans la conversation en russe. Cette nuance de vocabulaire nous apprend la façon qu'ont les femmes de l'Est de considérer les trafiquants. Pour elles, ce sont des hommes malhonnêtes. Le mot « businessman » en russe signifie à la fois « homme d'affaires » bon, donc qui peut être tout à fait malhonnête, hein, qui réussissent et qui donc sont des escrocs, mais avec qui l'on peut négocier. Elles ne se considèrent pas comme une marchandise, mais comme l'autre partie ou une tierce partie dans une transaction. Elles ont aussi la possibilité de poser leurs conditions.
D'un autre côté, on voit que les jeunes, d'après les associations, les jeunes femmes africaines anglophones parlent de leur boss et d'autres parlent de leur mama pour désigner l'intermédiaire, c'est-à-dire la personne qui a permis qu'elles arrivent dans le pays.
Et du coup, à ce sujet-là, une médiatrice culturelle de Kabiria explique « Le rêve des femmes de ce pays est de partir en Europe. Alors notre notion de trafic et de proxénétisme n'est pas adaptée à leur idée sur les personnes qui les ont aidées à partir. Ce que nous nommons proxénète est pour elles un sauveur, particulièrement pour les jeunes anglophones. C'est-à-dire que là où les personnes qui leur ont permis de réaliser ce rêve elles, lui, sont moralement et humainement redevables. C'est une question presque d'honneur. Elle dit, il vient juste après Dieu.
Donc tous ces petits témoignages, c'était pour vous montrer à quel point c'est vraiment pas simple, la vision du proxénète. Et il y a aussi les témoignages de jeunes Albanaises qui, elles, ont... Bon, après, dans la majorité des Albanaises rencontrées, hein, par les associations, parlent de leur... alors je ne saurais pas le dire avec l'accent, mais en gros ça signifie « garçon » dans le sens de « mon mec ». Et en général, c'est l'homme avec qui elles vivent, leur mari ou leur fiancé. Et alors dans cette communauté, il est super difficile de dénoncer leur « mec ». Sinon, elles sont mises au banc du groupe car elles ont trahi et les femmes ne doivent pas trahir les hommes. Donc bon, tout ça, c'est pour montrer que la définition de proxénète, c'est pas quelque chose d'unilatéral, il y en a plein de différentes et c'est pas forcément toujours dans la même échelle de valeur de violence.
Voilà, et donc par rapport à ça, on voulait un peu parler de ce que les gouvernements présentent comme des dispositifs d'aide aux victimes. Donc voilà, les victimes, c'est les femmes prostituées. Et comme soi-disant, une lutte contre le proxénétisme. Parce que, en vrai, si on compare par exemple les chiffres pour la France, donc là c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, il a dénombré environ 5600 interpellations, donc femmes arrêtées, qu'on fait la garde à vue avec toutes les violences dont on a parlé avant, dont la majorité sont étrangères. Et par contre, 709 proxénètes arrêtés. Alors on peut voir le rapport de soi-disant lutter contre le proxénétisme, ça revient à juste harceler les personnes prostituées. Et en vrai, le but, c'est de les expulser. Et de la même façon, en vertu de la protection des victimes, une femme qui dénonce au proxénète doit obtenir des papiers. Alors déjà, c'est quand même un principe de droit contre délation qui est déjà une forme de violence politique. Mais en plus, son application, elle est révélatrice. Parce que par exemple, en France, la personne, elle reçoit donc un permis de séjour de 3 mois avec une autorisation de travail et pas une carte de séjour. Et du coup, elle a accès ni à un emploi, ni à un logement, ni à un compte en banque, ni à une prestation sociale de droit commun, car la durée de son titre de séjour, elle est trop brève. Et donc, dans ces conditions, la plupart des femmes, elles retournent travailler dans la rue pour gagner leur vie, parce que de toute façon, elles n'ont pas d'autre travail qu'elles peuvent trouver. Et elles y sont arrêtées pour racolage. Leur titre de séjour, il leur est retiré, et alors elles peuvent être expulsées. Donc voilà comment ça se passe, cette soi-disant protection des victimes.
C'est un véritable engrenage, quoi.
C'est le serpent qui se mord la queue, si je me rappelle bien d'une expression d'une des personnes prostituées. Alors tout ce qu'on vient de vous dire, ça peut paraître assez déprimant. Enfin, je veux dire, c'est une situation qui, c'est vrai, c'est une situation grave pour les personnes prostituées. Alors les associations de santé communautaire qui travaillent avec les personnes prostituées parlent d'empowerment. Donc on voulait un peu essayer de vous... j'ai peut-être oublié quelque chose avant, pardon.
Mais peut-être qu'on va faire une petite pause musicale et reprendre ensuite. Et donc on va écouter un morceau d'Aretha Franklin qui s'appelle « Respect ».
Sur Dégenré, sur Radio Kaléidoscope, pour un dernier quart d'heure sur la question des femmes migrantes et du travail du sexe.
Et du coup, avant, on avait parlé des dispositifs de protection, des victimes et du fait que les femmes, elles soient vues comme juste délinquantes ou alors soit comme victimes. Elles ont deux choix et c'est là aussi qu'on retrouve le stigmate de pute en général qui est un stigmate en fait qui limite les possibilités pour toutes les femmes. Et je pense qu'on nous construit dès notre enfance de ne pas être assimilées à une femme mauvaise. Donc les femmes mauvaises, c'est les salopes, c'est les putes, etc. Et qui divise en fait les femmes en deux catégories. En fait, il y a les bonnes, celles qui sont honorables, et les mauvaises. Et donc, là-dessus même, je pense, voilà, des groupes qui, des fois, veulent... ne sont pas dans un truc répressif par rapport aux personnes prostituées, quoi, que ce soit certaines organisations, etc. Elles peuvent quand même se retrouver, aussi, certains groupes féministes, à les enfermer dans un statut de victime, de manière individuelle, et qui les infantilise. Enfin, d'ailleurs, par exemple, dans les textes, c'est toujours marqué la protection des femmes et des enfants. C'est quand même assez, assez révélateur. Et du coup, c'est pour ça qu'on voulait aussi parler un peu d'empowerment, et donc un peu de reprise de pouvoir, pour montrer que c'est pas juste ça, c'est que les personnes, elles sont aussi actrices de leur vie, elles agissent, elles font des options, et on peut pas décider à leur place de qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour elles.
Alors l'idée d'empowerment, c'est un mot anglais, donc dans lequel qui est fabriqué à la base par le mot power, pouvoir, et qui n'a pas vraiment de traduction en français, parce que c'est... Alors, en gros, on pourrait le traduire par l'idée de consolidation de son propre pouvoir de décision. Alors, c'est un mot, je crois, qui est sorti dans les années 80 dans les pays du Sud, mais qui est souvent utilisé pour...
Par des femmes,
en fait. Par des femmes, et pour les questions féministes. Donc, c'est pour ça qu'il est utilisé pour la question des travailleuses du sexe.
Et du coup, on pourra vous en reparler plus longuement dans une prochaine émission, puisque c'est intéressant, voilà, de pouvoir sortir du statut de victime et d'être dans une reprise d'initiative. Quoi.
C'est effectivement une notion assez complexe, parce qu'elle peut relever de plein de choses différentes. Alors, par exemple, quand on parle d'empowerment, on peut parler souvent de stratégies, de tactiques qu'on met en place pour se sortir soi-même des ennuis dans lesquels on est par la faute du monde social tel qu'il est, et des forces, que ce soit de l'État ou de la police, ou sociale. Et alors, donc les tactiques, elles seront définies comme des réactions, des actions à court terme pour faire face à des situations qui se paraissent sans issue immédiate. Alors les tactiques, ça peut être moins élaboré peut-être que des stratégies, et parfois même moins comprises comme telles, mais bon, on peut voir le témoignage d'une jeune femme nigériane qui explique « C'est en arrivant en Italie que j'ai compris que j'étais tombée dans un piège. Je devais travailler dans la rue et je n'avais rien pour moi. J'étais constamment surveillée. Et puis un jour, où je me suis retrouvée seule par hasard, je suis allée à la gare et j'ai pris un billet pour la France. Je ne savais même pas dans quelle ville j'allais. J'ai pris le premier train. Je savais qu'il fallait que je parte vite, que c'était ma chance. »
Et un autre récit d'une femme bulgare. « À 13 ans, je me suis retrouvée mariée avec un homme gentil, mais malheureusement, il avait une maladie mentale, avec des crises terribles. Nous vivions chez ma belle-mère qui était méchante et tyrannique. Je suis restée mariée 3 ans avec lui, et puis j'ai divorcé. Me voilà à 16 ans, divorcée, seule, sans aucun revenu, sans aucune instruction, sans métier. Je ne savais ni où manger, ni où dormir. » Je suis allée en tout et pour tout une seule année à l'école, même pas eu le temps d'apprendre à lire ou à écrire. J'avais une copine qui travaillait comme prostituée en Allemagne. Un jour où elle était revenue, je l'ai suppliée de m'emmener avec elle pour travailler dans la rue. Elle n'a pas voulu. Elle ne voulait pas peut-être parce que je n'avais que 16 ans, qu'elle ne pouvait pas prendre une telle responsabilité. Par contre, elle m'a donné de l'argent. Avec cet argent, j'ai fait faire un passeport et je suis partie en Pologne. Je suis arrivée dans une ville moyenne, j'ai cherché un endroit où il y avait des filles et je me suis installée un peu plus loin. Je ne savais bien sûr pas un mot de polonais, pas grand-chose sur la manière de se prostituer et aucune idée des tarifs. J'ai appris le polonais en 8 mois, la vie était plutôt bien. Je suis restée 4 mois dans la rue et puis un client est tombé amoureux de moi et j'ai vécu 3 mois chez lui tout en continuant de travailler. Et puis j'ai eu un contrôle de police, j'étais en situation illégale. Je me suis fait expulser avec une interdiction de territoire. Je suis revenue en Bulgarie et j'ai travaillé durant 1 an comme hôtesse dans un bar. Mais en Bulgarie, on ne gagne pas beaucoup d'argent. J'ai rencontré dans ce bar un travesti On a pas mal discuté et il m'a dit qu'en France, on pouvait bien gagner sa vie, que je pouvais venir et qu'il suffisait de trouver un endroit où personne ne travaillait. Avec l'argent que j'ai gagné, j'ai pu m'acheter une maison en Bulgarie. Quand je rentre, je travaille avec des touristes étrangers.
Voilà, donc ça c'était un peu... Enfin, par exemple, un exemple de témoignage de... qui, malgré les obstacles ou les violences que ça peut contenir, bah, c'est quand même une prise d'autonomie, d'indépendance, que ça soit économique ou même personnelle. Et l'empowerment, ça peut aussi être, par exemple, dans des réactions à des agressions. Là, par exemple, on a un autre témoignage d'une jeune femme du Nigeria qui raconte qu'elle ne craint pas d'être agressée parce que de toute façon, si elle a choisi de travailler dans la rue, elle est prête à tout, même à mourir. Elle a d'ailleurs une stratégie d'intimidation qui consiste à se faire passer aux yeux de l'agresseur pour une folle en ôtant sa perruque et en exécutant des danses africaines. Elle dit que ça leur fait peur, car ils ont le sentiment qu'ils ne maîtrisent rien et que la victime ne sera finalement pas celle prévue à l'initiale. Elle a aussi une barre de fer dans son sac et une bombe lacrymogène, compagnon de route, comme elle dit. Sa corpulence est assez intimidante et les seules fois où elle s'est fait bousculer, elle a rendu les coups. Donc voilà, c'est un peu un autre exemple de reprendre de la force, etc.
Et donc, par exemple, là, ces quatre les associations de ces quatre pays ont un peu fait ont édité un certain nombre de genre de lignes directrices pour que les différentes organisations, mais aussi les personnes, chacune d'entre nous, puissent identifier et renforcer les stratégies d'empowerment des femmes migrantes travailleuses du sexe. Alors, il s'agit par exemple de reconnaître les femmes migrantes travailleuses du sexe comme des sujets actifs, protagonistes et capables de prendre des décisions importantes pour le cours de leur vie.
De reconnaître qu'elles ont une histoire, un passé et qu'elles sont capables de décider pour elles-mêmes.
De reconnaître qu'elles sont très habituées à la résistance.
Que l'acte de migrer et de se trouver dans un contexte de travail du sexe est l'alternative à une situation d'inégalité et d'injustice sociale. Cet aspect est d'une grande importance pour obtenir une autonomie personnelle et une indépendance économique. Élément de base pour les stratégies d'empowerment des femmes.
De reconnaître leur capacité de résistance aux règles de vie et de transgression. Elles transgressent des frontières géographiques, physiques et idéologiques.
De reconnaître, et ça je trouve ça vraiment important, que même si elles sont des victimes d'un système social qui, sur le plan structurel, les discrimine, les condamne à une position marginale et qui produit en plus autour d'elles des situations de violence, elles ne sont pas des victimes dans leur vie personnelle, c'est-à-dire dans un sens fataliste et individualisant.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les règles de qu'elles se mettent ces associations pour travailler avec les personnes prostituées. Il s'agit d'agir en interaction, c'est-à-dire d'établir un respect et pas de la pitié ou de la compassion.
D'établir un soutien mutuel, donc en opposition à l'assistanat ou à l'aide charitable.
D'établir aussi de la complicité par opposition au maternalisme ou à l'utilitarisme.
Et d'établir des relations symétriques, horizontales, et pas du coup des relations hiérarchisées. Et voilà, notre émission touche un peu à sa fin. Alors c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est assez complexe et qui n'était pas obligatoirement évident à résumer. C'est pour ça que... on vous incite aussi à aller en chercher plus, par exemple, sur le site de Kabiria, que normalement je peux vous donner. C'est www.kabiria.asso.fr. Donc vous pourrez avoir plus d'informations que l'étude sur... laquelle se portait notre émission, donc Femmes et Migration en Europe, est par exemple consultable au Squat de la Mordue, où se passent aussi les écoutes collectives de l'émission Dégenrée, et vous pourrez aussi y trouver par exemple des brochures sur le même sujet ou plus de documentation.
Je vous conseille d'ailleurs, pour une petite indication bibliographique, le livre de Claire Cartonnet qui s'appelle « J'ai des choses à vous dire » et qui est un très beau livre. Donc c'est une femme travailleuse du sexe qui raconte comment elle en est venue à travailler sur le trottoir et à avoir beaucoup de respect pour elle-même. C'est vraiment un très très beau livre. que je vous conseille.
Il y a aussi un bon film qui est à l'affiche en ce moment au cinéma Le Méliès, qui s'appelle Mon Trésor, qui se passe à Tel Aviv, en Israël. Et donc c'est une mère et une fille qui se prostituent. Et je crois que à la fois sur les questions de stigmate par rapport aux personnes prostituées, mais aussi justement aux liens de solidarité qui peuvent se créer, c'est vraiment un film à voir.
Et moi, je voulais rappeler que les contacts qu'on a donnés en début d'émission, si vous avez des questions ou des choses à nous dire, vous pouvez nous écrire. Il me semble que c'est peut-être important, notamment après une émission comme celle-là, où peut-être vous avez des questions. Vous pouvez nous écrire par mail sur degenre@boom.org ou nous écrire par boîte postale, par la poste à Radio Kaléidoscope, BP 422 38018, Grenoble, CEDEX 1.
Et donc, on se retrouve dans 15 jours avec une autre émission, mais d'abord un petit mot de conclusion.
Oui, parce que je pense aussi pour finir, ce qu'on aura envie de faire passer comme message, c'est que c'est vraiment important de résister, donc plus en général, à cette vague sécuritaire actuelle et répressive. Et par exemple, je voulais dire deux mots pour l'illustrer sur un procès qui a eu cette semaine où du coup cette personne comparaissait pour organisation et participation à une manifestation illégale et par exemple elles encourent du sursis, le résultat donc sera lundi prochain, donc on pourra vous en dire plus à la prochaine émission, mais ça donne aussi une idée du climat qui règne où simplement le fait d'exprimer une opinion peut faire encourir de la prison ou des amendes. Et
voilà, donc notre prochaine émission sera sur une thématique tout à fait d'actualité qui sera un peu Noël, mais justement pour dire c'est un peu anti-Noël, pour voir un peu toutes les absurdités en termes justement d'organisation sociale auxquelles ça mène, et aussi par rapport aux rôles sociaux dans lesquels sont cantonnées les femmes dans ces périodes si formidables. Donc on aura également les résultats du procès dont Amélia vient de vous parler, donc on pourra vous en dire plus.
Bien, bonne soirée.
Et donc pour finir, on va écouter un morceau d'une rappeuse qui s'appelle Shifa. Donc le morceau c'est Les Flammes de la Colère. Alors on l'a déjà passé, mais on est quand même pas mal fan parce que c'est... si vous écoutez les paroles, il est... vraiment intéressant et c'est aussi un appel à la résistance et une dénonciation des violences étatiques.
Les délits ont des millions de raisons, mais eux délient. Le grand de sécurité ont le pouvoir entre leurs mains pour nous protéger. Non, 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 pour assouvir leur plaisir malsain. Mais pourquoi attiser les flammes de la colère? Pourquoi attiser les flammes? Mais pourquoi attiser les flammes de la colère? Pourquoi attiser les flammes de la colère? Mais pourquoi attiser les flammes? Mais pourquoi attiser les flammes de la colère? De la colère. Mais pourquoi attiser les flammes? Tester les flammes de la colère.